L'AVSDS présente Parlons Deuil, le podcast qui vous fait découvrir tous les aspects du deuil.
Épisode 6, Deuil et adolescence. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Parlons Deuil, le sixième épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on parle du deuil et des adolescents. Nous avons eu l'occasion dans le deuxième épisode de Parlons Deuil de parler du deuil vécu par les enfants. Puis on avait justement soulevé que pour les adolescents, c'était quelque chose de différent, qu'ils percevaient non seulement la mort différemment, mais aussi qu'ils vivaient le deuil d'une manière aussi très spécifique. Alors aujourd'hui, cet épisode leur est donc consacré, et ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est tout d'abord comment est-ce qu'ils perçoivent la mort, comment est-ce qu'ils perçoivent le deuil, et puis aussi et surtout, comment peut-on les aider. Pour m'accompagner dans ce sixième épisode, j'accueille Esther Winch. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Esther.
Bonjour.
Alors je vous propose de commencer dans le vif du sujet déjà. C'est quoi l'adolescence ?
Alors, l'adolescence, c'est la période de vie entre la puberté et l'âge adulte. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'a définie de 10 à 19 ans. Bien sûr, c'est des règles fixes ou des définitions fixes, c'est plus souple, mais c'est la définition officielle. Dans cette période sont inclus, bien sûr, le développement intellectuel et comportemental, le développement affectif, le développement psychologique et social et aussi le développement de leur sexualité et du genre.
Donc là, vous avez déjà soulevé des points très intéressants. Maintenant, est-ce qu'il y a des spécificités liées à cette période de la vie qui sont importantes pour nous, justement, pour comprendre comment ils envisagent le deuil ?
Oui, tout à fait. C'est la période de vie où il y a le plus de changements en très peu de temps. Ce sont des changements chaotiques qui génèrent aussi une grande anxiété, la peur de l'ado de lui-même, de l'entourage, de ne pas y arriver. Et il y a des changements, par exemple, physiques et psychiques très importants. Il y a ces sentiments de toute-puissance. Côté affectif, il est en proie d'affection, d'émotions inconnues jusque-là, d'une intensité majeure, et il fait plein d'efforts pour les maîtriser. Il y a aussi la reconnaissance des pères, très important aussi lors du deuil.
Quand vous dites reconnaissance des pères, c'est les copains de l'école ou bien du sport
Tous ces copains qui l'entourent, où il occupe une place, où il se trouve dans une équipe, justement, où il y a cette appartenance, où il peut ressentir de faire partie de ce groupe. Il est en recherche, là, de nouveaux repères, bien sûr. Il y a des changements et des remaniements des relations, surtout avec les parents, accompagné par la recherche des limites que je crois tous les adultes sont bien conscientes de ça.
Donc avec toutes ces spécificités, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir un petit peu tout au long de l'épisode. Ce sont tous des points qui importent justement dans la manière de vivre le deuil, mais on avait déjà vu justement dans le deuxième épisode qui parlait du deuil vécu par les enfants que justement la manière de vivre le deuil est fortement liée à la perception qu'on a de la mort. Alors comment est-ce que les ados perçoivent la mort ?
D'un côté, ils l'aperçoivent comme les adultes, et de l'autre côté, la mort d'un proche fait exister la mort. Donc ça veut dire qu'ils se disent « moi aussi, je peux ou je vais mourir ». Et ils prennent conscience de leur vulnérabilité, parce que c'est une époque où l'ado se sent invulnérable. Et puis, il faut quand même ajouter aussi que si on évoque le mot « mort », plus que 10% des ados pensent au suicide.
Donc pour ces 10%, la mort peut être vue comme quelque chose de libératrice, mais en tout cas pour tous les ados, ça les ramène à leur propre finitude, au fait qu'ils vont mourir un jour eux aussi.
Oui, c'est exactement ça.
En quoi est-ce que ça impacte justement leur deuil ? Je pense à un exemple. Est-ce qu'il y a une grosse différence si c'est un parent qui meurt ou bien si c'est typiquement un ami ou bien un prof à l'école qui décède ?
Oui, il y a des différences, bien sûr. Ce qui est important avant tout, c'est le lien. Alors, ça dépend le lien que l'ado a avec celui qui est décédé. Bien sûr, les parents sont une autre dimension aussi pour son développement par la suite. Il peut se sentir marginal parce que tous ses copains ont toujours les parents et puis lui, il a peut-être perdu sa mère ou son père. Versus peut-être un sentiment d'appartenance quand c'est un ami. Et il y a plusieurs amis en commun qui font le deuil, donc on pourrait parler d'un deuil collectif.
Et donc le deuil est quand même différemment vécu si c'est quelqu'un de très proche ou quelqu'un de plus éloigné. Si c'est quelqu'un d'éloigné, l'ado est plutôt ramené à lui-même, à sa propre finitude, alors que quand c'est un parent, ça amène d'autres points.
Oui, c'est ça. C'est l'image qui est touchée de en fait, sa vie, de la réalité de la vie. Et puis quand c'est un parent ou quelqu'un de très proche, il y a tout un changement dans sa vie aussi, tout pratique aussi, de développement et puis de sa vie de tous les jours.
Oui, et puis bien sûr, vous l'évoquez, certains aspects très pratiques, comme typiquement l'argent à la maison, qui va s'occuper de quoi, etc., qui ramènent des problèmes très factuels. Mais oui, au niveau du sentiment aussi, c'est différent.
Oui.
Alors, je vous propose de plonger dans le sujet. L'ado en deuil, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Finalement, ce sont deux temps de vie qui s'entrechoquent. L'exigence de cette période d'adolescence avec l'exigence du deuil. La période de l'adolescence est une période de risque et le deuil aussi. Donc on a deux sources de risque qui se conjuguent et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie.
Est-ce qu'il y a certains points généraux que vous pouvez nous donner?
Oui, absolument. Donc l'adolescence est vraiment la période la plus difficile pour le deuil. Et il se montre dans le comportement de l'ado. L'ado, il cache son chagrin, il ne s'exprime peu ou pas du tout. Il a aussi peur d'être dépassé par ses émotions. Il y a une solitude prononcée déjà pendant l'adolescence. Je crois que c'est un marqueur assez important. Là, c'est encore davantage important. Il y a un sentiment accru d'injustice aussi. En général, on peut constater cela. Et puis, de l'autre côté, on voit sa volonté de protéger ses proches, les autres. Donc, il ne s'occupe pas de son propre deuil. Et pour nous, les professionnels et l'entourage, c'est très, très difficile de prévenir l'évolution et l'avenir de ce deuil, de ce vécu de deuil. L'ado, bien sûr, il gardera toujours une partie de ce deuil. Et un point général, je crois, qui est très important de dire ici, c'est que l'ado ne veut pas être aidé.
On aura l'occasion de reparler justement de l'aide aux ados un petit peu plus tard dans cet épisode.
Oui.
Maintenant, on a vu les généralités. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore plus spécifiques?
Oui, absolument. Il y a un effet important sur la santé physique. Donc, on constate des troubles de sommeil, des troubles d'alimentation, par exemple des maux de ventre et de tête, des eczémas, une fatigue énorme. Et on voit aussi une période dépressive qui ne montre pas du tout les mêmes manifestations que chez l'adulte. Ça, on peut par exemple constater qu'il a un comportement à risque et un comportement régressif.
Quand vous dites comportement à risque, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il se met en danger pour chercher ses limites. Donc on voit par exemple tout d'un coup des escalades où c'est très dangereux, où il dort plus du tout. Il se met en danger lui-même.
Donc il va vraiment pousser les choses à l'extrême, et donc encore plus quand il est en deuil que quand
oui,
il ne l'est pas.
Oui, c'est aussi une manière de montrer son malaise, parce qu'il n'en parle pas, ou très très peu, et puis il montre d'une autre manière.
Il arrive à s'exprimer différemment.
Oui. Aussi pour la durée, peut-être c'est très très difficile à dire, comme l'ado cache très bien, il semble aller mieux. Et puis là, il y a un conseil à donner de rester vraiment attentif.
Par rapport à ce que vous disiez, justement, dans les précédents épisodes, on a plusieurs fois pu parler justement du processus du deuil. Est-ce qu'il est pareil pour les ados?
On peut parler aussi du processus, mais là, je préfère de parler des effets principaux du deuil à l'adolescence. Si je vous donne peut-être un peu les mots-clés, il y a un comportement régressif. Il y a une régression aussi psychique. Après, il y a un bon moment de revenir à la réalité, un moment d'intériorisation. Et puis, ne pas à oublier, c'est une énorme, énorme culpabilité.
D'accord. Alors, reprenons tous ces points un par un. Vous avez dit donc un comportement régressif. Qu'est-ce que vous entendez par ça?
C'est par exemple que l'ado peut refaire pipi au lit ou qu'il suce son pouce. Donc vraiment revenir à des comportements qu'il a eus pendant son enfance.
Et donc ça touche les ados de tous les âges ou plutôt ceux qui sont encore plus proches de l'enfance?
On pourrait dire oui, mais on a déjà vu des jeunes à 18 ans de recommencer à sucer leur pouce. Bien sûr, ça procure la sécurité de l'enfance.
Et puis, vous avez dit une régression psychique.
Oui, dans l'idée de la mort, ça repart vers un niveau d'un enfant. Donc, on a vu avec les enfants la réversibilité, presque une régression vers un monde magique. Le décédé, il va revenir. Et il y a toute cette ambiguïté de ce qu'il sait et de ce qu'il aimerait.
Et par rapport à cette régression psychique, donc il reprend des points qu'on a abordés justement dans le deuxième épisode. Est-ce qu'ensuite il faudra traiter ces points avec lui en le considérant comme un ado, justement en prenant en compte cette régression?
C'est bien quand on est dans l'écoute avec l'ado de ne pas le juger et de dire « Ah, mais tu reviens vraiment un bébé ou c'est gamin. » C'est une phase nécessaire.
D'accord. D'où aussi la nécessité de revenir à la réalité?
Tôt ou tard, il va revenir à la réalité. Ça veut dire clairement qu'il accepte la mort. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec la mort, mais qu'il voit cette réalité et puis il la voit en face.
Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre de le faire ou est-ce qu'il va automatiquement le faire lui-même après un certain temps?
Il va le faire lui-même. Ce qui est nécessaire et on peut vraiment beaucoup aider, c'est de l'intégrer dans toutes les démarches. Ces démarches sont très importantes pour lui et qu'il peut être là pour reconnaître la mort.
Et puis, un moment d'intériorisation.
Oui, c'est la relation qu'il a et qu'il crée avec le décédé. C'est parler du défunt, de ne pas faire semblant que c'est rien ou que ça n'existe pas. Aussi dans les partages collectifs, par exemple, ou au sein de la famille. Et puis, c'est aussi ce qu'on a souvent vu et constaté qu'il cherche les objets ou un objet qui a appartenu au décédé puis qui devient très important pour lui. Par exemple, aussi un vêtement que tout d'un coup, il porte un manteau du père décédé puis qu'il ne lâche plus pendant cette période d'intériorisation.
Et alors là, il faut lui laisser cet objet.
Absolument.
Et puis, vous avez mentionné comme dernier point la culpabilité.
Oui, on a souvent parlé de la culpabilité, donc il n'y a vraiment pas de deuil sans culpabilité. Et de toute façon, l'ado se sent toujours coupable et là encore plus. Donc ça peut même amener à l'autopunition, puis c'est très important de le déculpabiliser.
D'accord, donc je répète les principaux effets du deuil que vous avez dit, donc comportement régressif, régression psychique, revenir à la réalité, moment d'intériorisation et puis la culpabilité.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut les aider, ces ados, alors?
Je crois déjà, en général, on peut dire il y a deux points. L'ado refuse l'aide et l'ado parle seulement avec les personnes qu'il juge authentiques. C'est très important pour l'aide aussi. S'il nous dit « fiche-moi la paix », on va lui ficher la paix, mais ficher attentivement la paix.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire d'être proche de lui, de garder le lien. Comme il verbalise très peu, ça peut se faire par d'autres moyens, par exemple faire une activité avec lui, garder le contact par message, justement pour garder ce lien qui va permettre à l'ado de, peut-être, quand il se sentira prêt, de venir parler.
Donc, pas le forcer à en parler, mais lui donner l'espace, ou en tout cas lui donner la possibilité justement de venir parler, quand lui se sentira prêt.
Oui, c'est ça. C'est par exemple aussi créer des espaces pour que les ados, entre eux, on a mentionné l'importance des pères, puissent se parler en sécurité. C'est accompagner son entourage si on n'est pas touché de très près de cette mort. Et aider l'entourage, c'est aider aussi l'ado.
Comme on l'avait déjà dit pour les enfants.
Oui, exactement. C'est le rassurer sur la normalité de ce qu'il vit. Et puis ça, on fait justement en étant à l'écoute, sans jugement. Et puis aussi, je crois que c'est vraiment important de dire la vérité pour que l'ado puisse garder confiance en l'adulte.
Et dans quel cas est-ce qu'il faudrait envoyer l'adolescent vers justement un ou une thérapeute professionnelle?
Oui, si la situation perdure ou se dégrade, par exemple, on en a parlé des comportements à risque, il faudrait intervenir et puis chercher de l'aide adéquate et qui correspond bien à l'ado.
Et puis pour revenir justement à cette aide des proches que vous évoquiez en premier tout à l'heure, on a souvent dit dans ce podcast que les ressources personnelles étaient essentielles quand on accompagnait justement un endeuillé. Mais dans le cas justement des enfants et des adolescents, est-ce qu'on doit mettre ça de côté en tant qu'adulte? Est-ce qu'on doit mettre la priorité sur eux? Parce que si c'est un parent qui décède, bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont touchées par le deuil.
C'est toujours important de respecter ses propres limites. Ça, je crois, on peut vraiment laisser comme fil rouge. Comme l'ado est en plein développement, pour moi, c'est une priorité. Donc, de vraiment ne pas le laisser de côté quand on est submergé de sa propre douleur. Peut-être de chercher de l'aide de lui. Ça peut être un ami, ça peut être un parrain, un oncle, une marraine. Un adulte qui est capable de l'accompagner l'ado et rester aussi dans la durée.
Donc, si on n'a soi-même pas les ressources personnelles, il faut quand même faire en sorte que l'ado puisse trouver quelqu'un qui puisse l'aider.
Oui. De ne pas les exclure et de les prendre en considération, ça me paraît vraiment très important.
Et puis, un autre point qui pourrait peut-être surgir, auquel j'ai pensé, est-ce qu'il faut aussi se protéger contre des éventuelles agressions verbales, voire même physiques de son ado?
Les agressions sont toujours une question de limites et les limites, ou mettre les limites, procure un sentiment de sécurité. Donc l'adulte est vraiment dans le devoir de les donner, ses limites. Après, la question c'est jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut tolérer, ne pas tolérer? Je pense que l'agression physique n'est vraiment pas tolérable. Une provocation verbale repose aussi sur les limites qui sont imposées, donc une transgression de ces limites demande une négociation des limites. Ça veut dire en accepter vraiment sans y entrer pour éviter une escalade.
Et puis typiquement, éviter l'escalade, mais aussi respecter l'intégrité de l'adolescent.
Oui.
Et puis typiquement, si l'adolescent nous insulte et qu'il part dans sa chambre, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que là, il faut aller dans sa chambre pour en parler avec lui? Est-ce qu'on a meilleur temps de le laisser tranquille?
On a meilleur temps de le laisser tranquille. S'il va dans sa chambre, c'est son refuge de sécurité. Et s'il ferme la porte, même si ça fait du bruit, ça, ma foi, il faut le supporter. C'est de le laisser vraiment en sécurité. Et puis, attendre le moment qu'il sort, ou bien, pourquoi pas, aller toquer à un moment donné, quand ça dure longtemps, pour juste signaler qu'on est là.
Donc comme pour le deuil, ce que vous expliquez, montrer qu'on est là, qu'on peut en discuter, sans jamais empiéter justement sur la liberté de l'ado, qui pourrait se sentir acculé.
Oui, c'est ça.
Pour les aider, est-ce que vous avez peut-être des adresses à transmettre à nos auditeurs et auditrices?
Oui, avec plaisir. Donc il y a toujours la Fondation Astram. Elle s'occupe des jeunes jusqu'à 25 ans. Et puis j'ai aussi pensé au forum, parce que le forum, ça marche bien. Car c'est à distance et ce fameux forum, ça s'appelle ciao.ch. C'est pas spécifique pour le deuil, mais c'est un forum où on peut poser des questions, où on a des réponses dans des délais très rapides. Et ça crée aussi ce sentiment d'appartenance. Il y a d'autres ados qui posent des questions et puis c'est juste un petit club là d'ados.
Est-ce que c'est des ados qui se répondent entre eux ou est-ce que c'est supervisé?
Oui, il y a des professionnels qui répondent.
D'accord, donc vous avez dit le forum Ciao.
Le forum Ciao.ch, la fondation Astram, et ne pas oublier bien sûr le pédiatre ou le médecin de famille.
Très bien. Et Esther Winch, est-ce que vous avez encore une dernière information, le mot de la fin?
Alors, malgré toutes ces difficultés, de garder sa tendresse et son amour pour l'ado, ça me paraît vraiment primordial. Et ne pas oublier la force de montrer l'exemple.
Parce qu'au final, les adultes sont les premiers exemples des ados.
Oui.
Parfait. Merci. On termine sur ces belles paroles. Merci à Esther Winch d'avoir été là avec nous à nouveau.
Merci.
Et puis pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à aller écouter nos autres épisodes, si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi à notre podcast. Et bien sûr, si vous avez un sujet dont vous avez envie que nous traitions, vous pouvez nous envoyer un mail à podcastdeuil@gmail.com, donc podcastdeuil tout en minuscule, sans ponctuation. On vous rajoutera également en description les adresses des sites internet qui ont été mentionnés pendant cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. C'était Parlons Deuil.
C'était Parlons Deuil, un podcast de l'AVSDS présenté par Luc Vinge.